Voilà, comme d'habitude, et c'est une bonne habitude, nous allons demander au Seigneur de nous éclairer pour que nous comprenions bien ce qu'il veut nous dire aujourd'hui. Quelle grâce tu nous fais, Seigneur, d'avoir la liberté de pouvoir ouvrir la parole, de se réunir sans crainte. Quelle grâce tu nous fais, Seigneur, de nous donner ton esprit pour que cette parole ne reste pas lettre morte, mais pour qu'elle prenne racine en nous, qu'elle nous donne la vie. À quoi servirait une parole, Seigneur, qui ne donnerait pas la vie, qui ne nous donnerait pas la vie? Ta parole, elle est faite pour cela, Seigneur. Et nous voulons vraiment, ce matin, l'écouter, vraiment avec ton Saint-Esprit. Nous voulons vraiment que ce que peut-être nous n'avons pas compris jusqu'à présent, eh bien, par ton Saint-Esprit, tu permettes que nous le comprenions aujourd'hui. Seigneur, exauce cette prière. Nous te demandons de nous bénir, Seigneur, les uns et les autres. Et nous te demandons d'agir dans nos cœurs et dans notre esprit. Amen. Aujourd'hui, nous allons lire un petit passage dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4, et à partir du verset 4. Donc Philippiens, chapitre 4, à partir du verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le passage sur lequel je vais insister, c'est celui qui vient maintenant. Au reste, frères et sœurs, toujours oublié les sœurs, non. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. En créant l'homme à son image et à sa ressemblance, comme dit Genèse 1, 26, Dieu a voulu que ses créatures, c'est-à-dire chacun de nous, soient en capacité de le connaître. Mais comme nos yeux de chair ne peuvent pas le voir, comme je vous vois ce matin et comme vous pouvez me voir, Dieu nous a donné la capacité de nous faire une représentation de lui, des images de lui, à travers des images mentales qui sont le fruit de l'imagination dont il nous a dotés en nous créant. Le but principal de cette imagination accordée par Dieu à l'homme, c'est que chaque créature puisse le connaître. Être en communion avec lui. Mais pour que l'homme n'imagine pas n'importe quoi, y compris le contraire de ce qu'il désire nous faire connaître, Dieu nous a donné les Écritures, c'est-à-dire la Bible. Et c'est dans ce livre, et dans ce livre seulement, que Dieu se révèle à l'homme tel qu'il est Dieu. Et c'est seulement à partir de ce livre que l'homme peut imaginer Dieu et peut se faire une représentation de Dieu tel qu'il est réellement. C'est seulement nourri de ce livre que notre imagination va percevoir la vérité sur la création, sur l'amour, la beauté, la vérité avec un V majuscule, la masculinité, la féminité, le mariage, le salut, la croix de Christ, la souffrance, le mal, la mort, la résurrection, et tant d'autres domaines dont nous parle la Bible. L'imagination non éclairée par les Écritures est incapable de conduire les hommes dans la vérité, dans la justice et dans l'amour. Il n'y a qu'à considérer la majorité des programmes de télévision, des films ou des romans qui sont le reflet d'une imagination dévoyée. Revenons à notre texte. À qui l'apôtre Paul parle-t-il? Le premier verset de la lettre nous donne la réponse. Paul s'adresse aux chrétiens, aux évêques et aux diacres de la ville de Philippe. En écrivant cela, l'apôtre sous-entend que les chrétiens peuvent laisser leur pensée, leur imagination s'imprégner de paroles, d'images, d'aspirations, de rêves qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et ce qui est digne de louange. Remarquons que ces 8 qualificatifs expriment tous un niveau moral élevé, qui devrait, selon Paul, être la norme de vie. La norme de vie pour chaque homme et chaque femme qui se dit chrétien. Il est important de comprendre que nos pensées, et donc notre imagination, puisque les deux sont liés, jouent un rôle extrêmement important dans notre comportement. Elles ont une grande influence sur nos attitudes, sur nos paroles, sur nos regards et sur nos relations. Depuis le matin où nous nous réveillons, jusqu'au soir où nous nous endormons, nous n'arrêtons pas de penser, de brasser des images de choses concrètes ou invisibles. Et même pendant notre sommeil, notre inconscient continue à penser, ce qui se traduit par des rêves. La question que nous pose indirectement Paul est la suivante. Avec quoi alimentons-nous nos pensées tout au long de nos journées? Par quoi sommes-nous attirés? Quelles sont les images mentales qui dominent notre pensée? De quoi se nourrit notre imagination? Grégoire le Grand, qui était un pape de la fin du VIe siècle, a dit « Si vous ne vous réjouissez pas des choses élevées, vous vous réjouirez des choses viles. » Ceci est vrai pour une société, pour une communauté, pour une nation, et cela est vrai aussi pour vous et pour moi. Au verset 4 de notre lecture, Paul dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Qu'est-ce que ça veut dire, se réjouir dans le Seigneur? La Bible, en français courant, nous éclaire un petit peu sur la signification de ça. Elle traduit « Soyez toujours joyeux d'appartenir au Seigneur. » Et la traduction de Parole vivante dit « Réjouissez-vous d'être dans la main du Seigneur et de tout ce qu'il est pour vous. » Il est donc question de communion profonde avec le Seigneur, de confiance totale en lui. Et dans Galates 2:20, Paul va encore plus loin, il dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Comprenons bien ce que cela veut dire. Cela signifie qu'il y a échange de personnes. Cela veut dire qu'il y a substitution de personnes. Je ne vis plus par moi et pour moi. Je vis en Christ, par Christ et pour Christ. Et mon esprit est désormais uni avec l'esprit de Christ vivant en moi. Frères et sœurs, c'est la révélation de cette vérité qui va faire que nous n'aurons plus envie de nourrir nos pensées d'images, de paroles, d'aspirations qui ne sont pas vraies, honorables, justes, pures, vertueuses, dignes de louange. Ce ne sera pas seulement notre volonté qui nous interdira cela. Ce sera l'Esprit Saint vivant en nous et agissant en nous. Lorsque notre esprit est uni à l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons plus supporter de regarder comme un spectacle, comme une distraction, ce qui est trouble, sale ou pervers, ambigu, impur, contraire à la vérité ou à la beauté. Entrons dans le concret, si vous voulez bien. Au début de ce message, j'ai dit que Dieu nous a donné la capacité de nous faire une représentation de lui, des images de lui, à travers les images mentales qui sont le fruit de l'imagination dont il nous a dotés en nous créant. Et le but de Dieu, en nous faisant ce cadeau, c'est que nous puissions le connaître et être en communion avec lui. Malheureusement, l'homme peut aussi se servir de cette imagination pour se nourrir et se laisser influencer par les images que véhicule le monde sans Dieu. Les images qui nous viennent de la Bible et les images qui nous viennent du monde n'ont absolument rien en commun. Pour ne prendre que quelques exemples, je mentionnerai encore les séries télévisées . Vous vous rendez compte comment les séries télévisées, les films sont des pourvoyeurs d'images? Vous vous rendez compte? Les séries télévisées, les films ou les romans qui traitent de la violence, du mensonge, de l'adultère, du sexe, de l'homosexualité, de meurtre, de scènes de crime. Dans le but d'en faire des divertissements, ou pire encore, d'en faire l'apologie de ce que la Bible considère comme un péché. Si les autorités de l'audiovisuel prennent la précaution de signaler que tel film est interdit au moins de 12 ans ou au moins de 16 ans, c'est qu'elles ont conscience que certaines images peuvent nuire au psychisme des enfants ou des adolescents et les influencer à reproduire, et ça c'est vu, ou à trouver normal ce qu'ils voient. Alors comment se fait-il que des adultes s'autorisent à voir ces mêmes spectacles ? Eh bien, ils s'y autorisent parce qu'ils pensent qu'ils sont suffisamment adultes pour prendre du recul par rapport à ce qu'ils voient. et que leur esprit critique est suffisamment développé pour se détacher de ce qu'ils voient. Eh bien, frères et sœurs, c'est une erreur grossière. N'importe quel psy vous dira que, quel que soit notre âge, nous sommes tous influencés par ce que nous voyons et entendons. Les victimes d'attentats, les soldats de retour du front, mettent parfois des années pour se reconstruire après avoir vu des scènes d'horreur. Alors, ne nous mentons pas à nous-mêmes. Si nous regardons jusqu'au bout certains films qui ne correspondent en rien avec l'exhortation de Paul, eh bien, c'est que cela nous plaît. C'est que nous sommes attirés par ce genre d'histoire qui alimente une imagination malsaine. Nous dévoyons l'imagination que Dieu nous a accordée pour apprendre à le connaître. Et ce faisant, et c'est ce qui est plus grave, nous nous coupons de la relation intime que Dieu désire avoir avec nous. Oswald Chambers, qui est un évangéliste écossais du début du siècle précédent, du XXe siècle, qui est l'auteur, entre autres, des célèbres méditations quotidiennes « Tout pour qu'il règne », entre parenthèses, si un jour vous avez l'occasion de vous procurer ce livre de méditation, faites-le, vous n'aurez pas perdu votre argent. Il écrit la chose suivante: « L'imagination est le pouvoir que Dieu donne à son enfant de se sortir de lui-même. » Pourquoi faire ? Pour entrer dans des relations qu'il n'a encore jamais connues. C'est la Bible, je dis plus haut, qui devrait nourrir notre imagination. Alors certains vont m'objecter que la Bible ne raconte pas seulement que de belles choses. Oui, c'est vrai. Mais lorsqu'elle rapporte des actes ou des récits violents ou immoraux, ce n'est pas pour en faire un spectacle, c'est pour les condamner. Les écrivains bibliques n'ont pas tout peint en rose. Ils ont décrit la vie des hommes telle qu'elle est, avec le meilleur et avec le pire, mais ils n'ont jamais fait l'apologie du pire, du mal ou du péché. L'imagination qui ne prend pas sa source dans l'Écriture, mais dans le monde, est une imagination malade. Elle confond l'amour et le sexe. Elle confond les relations sexuelles voulues par Dieu pour l'épanouissement des couples. Elle confond cela avec le libertinage et l'adultère, qui détruisent les couples. Elle confond la religion et la foi, l'autorité et l'autoritarisme, la féminité et la sensualité. Cette imagination malade trouve son terrain de prédilection dans le monde sans Dieu, mais hélas, elle prend place aussi dans des églises et chez des chrétiens qui adoptent les idées du monde. Comment trouver la vraie imagination lorsqu'on a pris conscience que la sienne est malade? Être chrétien, ce n'est pas seulement croire que Jésus est mort pour nos péchés, pour nous accorder la vie éternelle. On peut croire cela et vivre très bien, comme quelqu'un qui ne le croit pas. J'ai en mémoire une scène d'un film de Don Camillo, où l'on voit ce prêtre au sang chaud s'apprêter à commettre un acte dont il sait que cela ne plaît pas à Dieu. Et que fait-il, ce prêtre ? Il retourne le crucifix pour que Jésus en croix ne voie pas ce qu'il va faire. Eh bien, c'est un peu ce que font certains chrétiens qui croient en Dieu mais qui ne sont pas passés par la nouvelle naissance. Dieu est plus ou moins présent dans leur vie, mais ce n'est pas lui, Dieu, qui dirige leur vie. Et dans ces cas-là, c'est toujours, toujours la vieille nature qui prend le dessus et qui conduit le croyant à faire ce qu'il ne ferait pas en présence de Dieu, c'est-à-dire s'il avait conscience que Dieu vit en lui. Frères et sœurs, si ce que je viens de dire trouve un écho en vous, et si vous prenez conscience que votre imagination aurait besoin de guérison, eh bien, soyez-en sûrs, Dieu veut vous guérir. Comment ? Eh bien, écoutons ce que Paul dit en Romains 6, 6. Nous savons, écrit-il, que notre vieille nature a été crucifiée avec Jésus. Notre vieille nature a été crucifiée avec Jésus, afin que notre corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Écoutons bien ce que dit Paul. Notre vieille nature, celle qui nous fait nous complaire dans ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, eh bien cette vieille nature-là, elle a été crucifiée avec Jésus. Et c'est la foi en cette vérité, en cette réalité, qui nous tiendra éloignés de regarder certains films ou émissions TV, de lire certains romans qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Non seulement nous n'en aurons plus envie, mais nous nous demanderons comment nous avons pu trouver du plaisir à les regarder ou à les lire. Et notre imagination guérie se tournera et se délectera de ce qui est vrai, de ce qui est honorable, juste, pur, aimable, vertueux et digne de louange, comme l'écrit l'apôtre Paul. C'est cette imagination-là qui entretiendra notre cœur à cœur avec Dieu et qui nous fera trouver la source de la vie dans les Écritures, où nous découvrirons la véritable image de Dieu, la véritable image de la vérité, de la beauté et de l'amour. Je vais encore citer Oswald Chambers. Il écrit la chose suivante. L'imagination est le plus grand don que Dieu nous ait fait. C'est à Dieu, par conséquent, que nous devons la consacrer. Si vous avez amené chaque pensée captive à l'obéissance à Christ, ce sera pour votre foi une garantie de premier ordre lorsque viendra le temps de l'épreuve, parce que votre foi et l'Esprit de Dieu seront à l'unisson. Je répète, votre foi et l'Esprit de Dieu seront à l'unisson. Si nous pouvons dire, comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, il n'y aura plus de lutte. Il n'y aura plus de lutte en nous pour abandonner notre ancienne imagination. Il n'y aura plus non plus de regret d'avoir perdu quelque chose. La vraie imagination, en effet, est tellement plus belle, car elle prend sa source en Dieu. Si les mots, Seigneur, ne trouvent pas un relais par ton esprit, alors les choses ne changeront pas. Mais si nous désirons vraiment que ce soit ton esprit qui conduise nos pensées, qui dirige notre imagination, alors nous serons délivrés de ce qui, sans que nous nous en doutions, nous sépare de toi. C'est ce que nous te demandons, Seigneur. C'est ce que nous te demandons ce matin. Que notre imagination se nourrisse uniquement de toi. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que tu veux vraiment exaucer cette prière. Parce que tu veux nous conduire les uns et les autres sur le chemin de la vérité. La vraie vérité, pas celle que se donnent les hommes. La vraie beauté. Et le véritable amour qui se trouve en toi et en toi seulement. Merci Seigneur de ce que tu es en train de faire. Amen.